Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Paul Smith, je rappelle que vous êtes créateur de mode britannique, que vous vous êtes fait connaître notamment pour avoir revisité le vestiaire masculin avec des imprimés à rayures, avec des fleurs, avec du velours. Votre mot d'ordre est en quelque sorte classique with a twist, classique avec une petit côté de fantaisie. Vous êtes aujourd'hui présent dans 1800 points de vente dans 75 pays. On discute beaucoup en France en ce moment d'une réforme du code du travail. Les Français sont plutôt moroses, disent que l'économie va mal. Et vous, vous aimez beaucoup la France?
Yes, I visit France a lot here.
Oui, je me rends souvent en France.
You notice the mood around the world, of course.
Et puis évidemment, on s'imprègne de l'humeur ambiante. Morose en France, dites-vous, c'est morose ailleurs aussi. Il y a en effet des événements assez funestes qui marquent notre monde. Il y en a qui ont marqué Paris au mois de décembre.
Vous êtes également en France depuis très longtemps. Avez-vous l'impression que sur le plan économique, la France soit autant à la traîne? Pensez-vous que les Français aient raison de tant douter d'eux-mêmes?
Well, I think the point in the world today is one of oversupply.
Aujourd'hui, je crois qu'on a trop de choses à notre disposition dans le monde. Il y a une excessive abondance de l'offre et cela n'est pas l'apanage de la France. Moi, je travaille beaucoup en Extrême-Orient et là-bas, c'est clair qu'il y a trop de choses, trop de bâtiments, trop de boutiques. Ainsi, je pense que la France, et ou la Grande-Bretagne d'ailleurs, souffre du même mal. C'est intéressant si on regarde ça par le prisme de la mode. Il y a 25 ans, regardez combien il y avait de boutiques de vêtements et comparez cela au nombre actuel de boutiques de vêtements. Les grandes marques ont des quantités énormes de boutiques. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent retirer les fruits d'un même arbre. L'activité est trop mince pour cela.
Et les mastodontes de la mode, notamment H&M, Zara, qu'est-ce que vous en pensez, Paul Smith?
Well, I think the industry for me has changed enormously over the last 15 years.
Le secteur a beaucoup changé depuis 15 ou 20 ans à mon avis.
Of course, before the fast fashion really never existed.
Évidemment, la fast fashion, la mode rapide n'existait pas vraiment et là ces mastodontes comme vous dites sont très performants et pratiquent des prix tout à fait raisonnables. Par conséquent, pour un créateur comme moi, qui organise des défilés chaque année, et nous essayons de faire valoir la qualité de nos vêtements en plus de l'aura et de la réputation du créateur lui-même. Donc moi j'ai cette chance d'avoir d'autres intérêts dans la vie que simplement la mode. Et bien souvent, je suis interviewé sur l'architecture ou le sport, ou j'aime bien parler d'autres sujets comme ça. Donc cela contribue, je pense, à faire passer une image un petit peu différente de Paul Smith.
Effectivement, vous vous intéressez beaucoup à l'architecture. On va en reparler dans quelques instants. Peut-être faudrait-il expliquer également aux auditeurs à quel point la mode a changé récemment, à quel point le rythme de création est devenu de plus en plus nerveux, le besoin de renouvellement probablement lié aussi au développement du capitalisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous avez plusieurs fois déclaré, Paul Smith, que vous trouviez cette accélération mauvaise et peut-être même suicidaire.
I think the acceleration of
the season, well, the season. Les choses s'accélèrent. Il n'y a plus de saison du reste dans la mode. Aujourd'hui, pour une raison que je ne m'explique pas, nous allons de plus en plus vite. Tout le monde veut tout, tout de suite. Mais est-ce vrai? Est-ce que les gens veulent vraiment tout, tout de suite? Les grandes entreprises ont tendance à nous le faire croire, mais peut-être que le consommateur ne veut pas tout, tout de suite. Le péril, c'est de faire disparaître le mystère, l'artisanat qu'il y a dans le domaine de la mode.
Et l'obsession des marques qui commence très tôt pour les jeunes, notamment, qu'est-ce que vous en pensez?
Yeah, I mean, first of all, the word brand is probably one of my least favorite words in the world.
Marque, voilà un mot que je déteste.
And I just think it's, but I completely agree with you.
Mais vous l'avez très justement dit.
An obsession with young
c'est une obsession dans l'esprit des jeunes.
The danger of being a popular brand is often very
les marques sont en péril parce qu'en réalité, leur longévité n'est pas assurée, loin de là. Et on le sait, les consommateurs ne sont pas très fidèles aux marques. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille depuis longtemps et je bénéficie d'une très grande fidélité de la part de mes clients. Mais par ailleurs, j'ai des clients de plus en plus jeunes et ça, c'est exceptionnel.
Et enfin, la dernière critique qui est très souvent adressée à la mode, Paul Smith, c'est d'imposer des diktats, notamment des diktats de beauté. Diktats de beauté aux jeunes filles, avec peut-être un lien avec l'anorexie, car celles-ci sont incitées à devenir extrêmement minces, avec des modèles dont on ne dit pas qu'elles sont photoshopées, dont les photos sont retouchées. Là aussi, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on peut faire quand on travaille dans la mode par rapport à ces fléaux?
I'm at Paul Smith, we're quite a low-key, laid-back company.
Chez Paul Smith, nous n'imposons rien en réalité. Nous faisons des propositions et nous espérons que les gens s'intéresseront aux vêtements de Paul Smith, mais en pouvant exprimer leur propre personnalité. Moi, ce que j'espère, c'est que l'on porte les vêtements, mais que les vêtements ne vous portent pas, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression exercée sur les jeunes. Et on a tendance à dire aux jeunes et aux moins jeunes qu'ils devraient avoir honte s'ils ne mènent pas un style de vie comme celui qu'on voudrait leur imposer.
Brice Couturier.
Vous savez peut-être que j'ai commencé comme journaliste de mode dans les années 70, dans le journal qui s'appelait Mode Avant-Garde, Vogue Beauté, Jardin des Modes.
Bon,
donc oui, j'ai commencé comme ça, vous voyez, je suis devenu très ennuyeux depuis, mais j'ai été frivole dans ma jeunesse. Or, je suis resté et je fréquente notamment un site masculin de mode qui s'appelle Comme un Camion, que je recommande vivement aux auditeurs, c'est un très bon site, et j'y apprends en particulier que l'ambiance de cet été serait une ambiance rétro 50s. Chemisette hawaïenne, look cubain, avec des chemisettes très psychédéliques de motifs. Et ça m'amène à une question qui m'a toujours hanté depuis que j'ai quitté ce métier, à savoir pourquoi la mode rétro. Dans les années 80, il y avait une forte tendance à un revival 60s. On pouvait comprendre la nostalgie de cette époque pour des gens qui ne l'avaient pas vécu. Mais là, comment se fait-il qu'en 2016, pour l'été 2016, on nous indique un retour aux années 50, à un look cubain pré-révolutionnaire? Est-ce que ça veut dire que la mode a du mal à se renouveler, ou est-ce que ça veut dire que nous conservons la nostalgie d'époques qui nous paraissent aujourd'hui paradisiaques, même si elles ne l'étaient guère en réalité?
La question est très importante, Paul Smith, parce que vous devez rassurer Brice sur la manière dont il doit s'habiller pour cet
absolument.
Été.
Absolument.
He has very nice spectacles.
Mais Brice a de très belles lunettes, je le signale aux auditeurs.
And I'm not sure I could see you in a Hawaiian shirt.
Vous, Brice, en chemise hawaïenne, je ne sais pas. Hein.
Yeah.
J'ai des doutes.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette nostalgie permanente? Est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à se renouveler?
La chemise hawaïenne, encore, c'est une chose, mais la chemise cubaine, pour lui, c'est ça, en fait, qui lui irait très bien.
Et le cigare.
Nostalgie is a dangerous thing.
La nostalgie, c'est dangereux.
I think fashion is about today and tomorrow.
La mode, c'est une histoire du présent et de l'avenir. En tant que créateur, évidemment, on ne peut pas sans cesse réinventer la roue. Par conséquent, de temps à autre, il faut puiser des références dans le passé. Mais l'élément clé, ce n'est pas prendre les références au pied de la lettre et leur donner un blanc-seing. Vous savez plus de choses sur moi que moi-même, parce que moi, ce que vous dites là, je l'ignorais, je ne savais pas que l'été allait être cubain.
En tout cas, la veste safari, en particulier dont vous parliez tout à l'heure, ça fait partie de cette...
Maybe you'd like to come and join the company.
Oui, je vais vous proposer un emploi chez Paul Smith, parce que tu n'as rien.
Voilà, comme ça, Brice va pouvoir revenir à ses premiers amours, à la mode. En tout cas, parmi les sources d'inspiration, vous avez toujours eu la musique, le rock'n'roll. David Bowie, qui était votre ami, on l'écoute au micro de Jean-Luc Hesse. C'était en 2003, revenir sur l'image qu'il renvoyait aux gens.
Je pense que les gens essayent de voir trop profondément en moi. Je ne suis qu'un artiste qui travaille. Peut-être ai-je une approche particulière de mon travail. Peut-être seulement le travail est intéressant. Je ne suis que moi. Je laisse entendre que mon travail a un réel intérêt. C'est peut-être pourquoi j'ai toujours un public qui me suit. Je ne pense pas que je les intéresse. C'est mon travail qui les intéresse. Voilà pourquoi je suis un artiste. Vous savez, je n'ai jamais vraiment su où j'allais, je n'ai jamais vraiment réfléchi à tout cela. Peut-être aurais-je dû. Quand j'étais tout jeune, j'avais cette obsession presque romantique de mourir à l'âge de 30 ou 35 ans. Les gamins ont une vision très romantique de la mort. C'est comme si la mort était une étape héroïque, déterminante dans cette vie poétique qu'ils s'inventent. Et puis soudain, tout change quand vous passez la barre des 35 ans. La mort prend subitement une autre dimension.
The quality of my life, I think, has been absolutely extraordinary. I mean, it's certainly been. I can't think of.
J'ai tout de même eu une vie extraordinaire. C'est irremplaçable. Personne n'aurait pu vivre ce que j'ai vécu durant toutes ces années.
The only things I would question and probably change is that maybe I would have been a little more social in my life.
J'aurais aimé être plus sociable. Je pense à cela parfois.
But there again, maybe I wouldn't have produced the amount of work that I produced. You know, it's difficult to know. You know, you give something up.
Je n'aurais peut-être pas produit autant de disques, mais c'est difficile à imaginer. J'avais tendance à m'investir totalement dans ma musique.
In the villa of Amen. In the villa of Amen.
La voix de David Bowie avec quelques notes de Black Star, une chanson à laquelle vous avez consacré d'ailleurs un t-shirt Paul Smith.
Yes, I mean, I'm privileged to say that David Bowie was a friend of mine, and in
j'ai le privilège d'avoir eu David Bowie comme ami. Et au mois de novembre, il m'a demandé de créer un t-shirt pour le lancement de son dernier album. Et on avait travaillé au préalable plusieurs fois ensemble. Et le t-shirt a été lancé le jour où l'album est sorti, et puis deux jours plus tard, comme on le sait, il a disparu. David était un type tout à fait normal. C'était clair lorsqu'il venait me voir. Il était curieux des œuvres d'art que j'ai chez moi. Il s'intéressait aux livres que j'ai sur les étagères de ma bibliothèque. Il avait une existence un peu schizophrène. Il était très théâtral sur scène et il avait cette capacité à se muer. Et cette mue, il l'a opéré de façon tout à fait habile et toujours réussie. Et puis quand il venait me voir, et il disait « Ah, elle est chouette ta veste, Paul. C'est bien. Et ce livre, où est-ce que tu l'as eu ?» Un type tout à fait ordinaire.
C'est étrange parce que lorsqu'on le voit effectivement sur scène, lorsqu'on le voit dans ses clips, on n'a pas du tout en tête l'idée qu'il pourrait être normal, David Bowie, Paul Smith.
Évidemment, il s'était créé un personnage public et la perception qu'on en a, c'est de quelqu'un de très théâtral.
Et
peut-être que des artistes comme lui ont souvent deux façons de vivre.
Le rock'n'roll vous a beaucoup inspiré. Il y a un lien également pour beaucoup de créateurs de mode britanniques, Vivienne Westwood, qui a eu sa carrière intimement liée, par exemple, au punk et à un certain nombre de groupes de rock punk. Il y a chez vous, Paul Smith, une inspiration constante de la part donc de ces musiciens de rock. Comment l'expliquez-vous et comment expliquez-vous ce lien en Angleterre entre une musique et un style vestimentaire ?
Remontons aux années 60.
À Los Angeles,
à San Francisco, puis à Londres, il y a eu un boom musical fantastique. Il s'agissait d'expression artistique Et cette expression s'est faite par la musique, mais également par l'apparence. Il y a eu également les arts graphiques, la photo, et tout ça, c'était en parallèle. Ainsi, quand moi j'ai eu 18 ans, je travaillais pour Led Zeppelin, et je peux vous dire que Jimmy Page avait une taille de 24 pouces. Donc, bref, Jimmy Page était particulièrement mince. Donc, j'ai fait des vêtements inspirés du rock'n'roll et pour le rock'n'roll, et je continue à le faire. Mais pourquoi y a-t-il ce lien étroit? Eh bien, je crois que c'est une idée d'expression. Il faut s'exprimer, et ça, c'est un mouvement qui est né dans les années 60.
Est-ce qu'il y avait des mouvements plus, comment dirais-je, plus source d'inspiration pour vous que d'autres? Car il y a eu le punk qui a été un mouvement de grande créativité sur le plan vestimentaire. Ensuite, il n'y a pas eu véritablement de grands renouvellements, peut-être en dehors du rap. Peut-être le mouvement grunge. Comment expliquer là aussi la sensation qu'il y ait eu en quelque sorte un essoufflement de la créativité en matière de mode musical, si je puis exprimer
ça? C'est vrai qu'en Grande-Bretagne, il y a eu pas mal de mouvements comme ça. Et je reviens à ce que je disais sur la nécessité de s'exprimer. Les jeunes ont besoin de s'affirmer et de se distinguer de leurs frères aînés, de leurs parents, et évidemment, parfois, ils sont un petit peu rebelles envers la société. Moi, ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que cette expression n'est jamais violente. Il ne s'agit de rien d'autre que de s'affirmer soi-même dans la société. Malheureusement, aujourd'hui, l'expression de l'individu est un petit peu amoindrie. En effet, il y a beaucoup de jeunes qui, malheureusement, sont trop informés et ils mènent leur vie comme on essaye de mener une entreprise selon un business plan. Et les jeunes n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur le plan visuel comme c'était le cas avant. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein. Je dis que c'est comme ça, c'est tout, c'est une observation.
Vous voulez dire que ces jeunes qui seraient en quelque sorte désireux de créer leur propre entreprise, vous utilisez le terme de manière métaphorique, seraient en quelque sorte trop obnubilés par leur réussite matérielle, c'est ça?
In the past.
No, no.
I think now there's a what's missing is a lot of young people trying to start their own style. I think
il y a pas mal de jeunes qui essayent de lancer leur propre style aujourd'hui. Mais ils sont inondés d'informations et d'influences. On leur explique comment il faut être, comment il faut apparaître. Les choses sont moins simples qu'avant pour eux. À l'époque, il s'agissait de se distinguer. Aujourd'hui, les jeunes ne semblent pas vouloir se distinguer.
Brice Couturier.
À la fin des années 70 et au début des années 80, on croisait au Palace, au Bain-Douche, des créateurs comme Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Montana aussi, Claude Montana, qui venaient regarder ce qui se passait sur scène parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait là des stylistes spontanés. De même que dans certains quartiers de Paris ou de Londres, il y avait des gens qui inventaient dans la rue des looks, des parures, des attitudes qui allaient être récupérées ensuite, interprétées, réinterprétées par les grands créateurs de l'époque. J'ai perdu de vue, comme je vous le disais, cette culture aujourd'hui. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous constatez encore quelque chose comme des stylistes spontanés? Est-ce que vous vous en inspirez de cette mode de la rue?
Oui, la mode de la rue, ça existe, toujours. Mais malheureusement, il y a beaucoup de créateurs et de couturiers qui se font une fausse idée quant à la façon dont ils doivent mener leur carrière. Donc, ils font des études et ensuite, ils se disent qu'il leur faut un soutien financier, qu'il faut organiser des défilés, ouvrir des boutiques. Et c'est beaucoup trop cadré, ça, si vous voulez. Alors, ça marche pour certains, certes, mais dans bien des cas, il y a des échecs. Ce n'est pas bien de penser que l'on peut suivre cette voie toute tracée, parce que ça ne marche pas comme ça. Et cette époque de Montana, Mugler, fin des années 70, début des années 80, c'est vrai qu'il y a le Palladium, le Bus Palladium, les Bains-Douches, tout ça. Ça, c'était des lieux où les gens pouvaient s'exprimer, se distinguer des autres.
Mais aujourd'hui, on a l'impression que la profession de styliste est une profession qui, lorsqu'on est un styliste phare, est très bien rémunérée, mais elle a l'air d'être psychologiquement épuisante. On voit qu'il y a eu beaucoup de cas de surchauffe, John Galliano. On voit qu'il y a également beaucoup de mouvements aujourd'hui dans le monde de la mode, c'est-à-dire que beaucoup de créateurs stars qui travaillaient pour des marques démissionnent, vont dans d'autres entreprises ou bien sont licenciés. Comment expliquez-vous ce phénomène, Paul Smith ?
Well, I think it's a very sad time for many brands because
triste époque pour quelques marques parce que il y a pas mal de créateurs qui sont laissés pour compte. Et c'est souvent parce que les institutions financières qui soutiennent les marques sont particulièrement exigeantes, elles veulent de plus en plus de bénéfices, et si les bénéfices ne sont pas au rendez-vous en temps et en heure, eh bien évidemment on montre qui du doigt ? Eh bien le créateur. Et ce n'est pas forcément le choix le plus judicieux, parce qu'il y a une combinaison de facteurs qui sont à l'œuvre, je vous l'ai dit, une surabondance d'offres, et les choses qui s'accélèrent beaucoup trop vite. C'est pas comme ça qu'il faudrait que ça marche. La pression exercée sur les jeunes créateurs est énorme.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Paul Smith, votre inspiration, elle ne vient pas seulement de la mode, elle vient même peut-être marginalement de la mode. En revanche, vous vous intéressez beaucoup à l'architecture. On écoute la voix d'Oscar Niemeyer.
Le jour où la société changera, les personnes les plus modestes ne regarderont pas l'architecture de loin. Le jour où la société deviendra plus juste, les maisons, les immeubles se simplifieront. Mais les grands ensembles humains, les théâtres, les cinémas seront encore plus grands parce que tout le monde participera. C'est la différence entre l'architecture d'aujourd'hui et celle du futur. Elle sera ouverte à tous. L'architecture doit remplir son objectif. Elle doit être belle et elle doit surprendre. Si elle ne fait pas ça, c'est sans intérêt, répétitif. C'est tout.
Niemeyer, en 2009, que vous inspire le fait d'entendre la voix de cet architecte que vous admirez, Paul Smith?
One of my heroes. Ah.
C'est une de mes idoles, Oscar Niemeyer. Il avait la capacité de créer des formes inédites. Par ailleurs, Niemeyer savait ajouter la fonction à la forme. Et moi, dans mon travail, ce qu'il y a d'important, c'est de savoir observer ce que font les marques sans se laisser influencer par elles. Il faut penser de manière latérale. Il faut regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Et c'est précisément ce que faisait Oscar Niemeyer. C'était un homme brillant de ce point de vue-là. Il apportait de nouvelles formes à l'architecture.
Niemeyer était très engagé politiquement. Il était très clairement marqué à gauche. Est-ce que vous suivez la politique ? Est-ce que ça vous intéresse, Paul Smith ?
Non, malheureusement, je ne suis pas très versé dans la politique. Au fil des années, j'ai travaillé avec pas mal de responsables du gouvernement. Je pense à Margaret Thatcher, Tony Blair et le Premier ministre actuel. Et cela a trait à ma passion pour la mode, mais ce n'est pas du tout l'expression d'un penchant politique particulier.
Le fait que la Grande-Bretagne soit aujourd'hui désireuse, pour une partie en tout cas, des Britanniques, de quitter l'Union européenne, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Yeah. I mean the whole Europe Britain leaving Europe question is one that is very confusing.
Cette question du Brexit suscite beaucoup de confusion dans l'esprit du public britannique.
Of course the fors and the against.
Il y a les gens pour, il y a les gens contre, bien sûr. Et à l'heure actuelle, le public britannique est face à un dilemme. On ne sait pas si les commentaires que l'on entend ci et là sont vrais ou non. Donc, je parle au nom de tous les Britanniques, nous sommes dans la confusion. Et c'est triste parce que le parti conservateur, qui était particulièrement homogène et unifié, commence à s'effriter parce que les choses prennent une tournure personnelle aussi. Et ça, je dois dire, c'est c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait que ça se passe. Ce qu'il nous faut, c'est de l'information claire et honnête.
Vous, en tout cas, vous êtes toujours considéré comme un Européen. Vous connaissez bien la France, vous connaissez bien l'Italie également, puisque vos vêtements, vos costumes notamment, sont produits en Italie. Paul Smith, vous intéressez également beaucoup aux créateurs français. On écoute la voix de Jean-Luc Godard.
Peut-être qu'un objet est ce qui permet de relier, de passer d'un sujet à l'autre, donc de vivre en société, d'être ensemble. Mais alors, puisque la relation sociale est toujours ambiguë, puisque ma pensée divise autant qu'elle unit, puisque ma parole rapproche par ce qu'elle exprime et isole par ce qu'elle tait, puisqu'un immense fossé sépare la certitude subjective que j'ai de moi-même et la vérité objective que je suis pour les autres, puisque je n'arrête pas de me trouver coupable alors que je me sens innocent, puisque chaque événement transforme ma vie quotidienne, puisque j'échoue sans cesse à communiquer, je veux dire à comprendre, à aimer, à me faire aimer, et que chaque échec me fait éprouver ma solitude, puisque je ne peux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile, puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant. Il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais, le monde, mon semblable, mon frère.
La voix de Jean-Luc Godard, je vois que le traducteur Xavier Combes a d'ailleurs renoncé à traduire ça. Vous êtes quand même sur France Culture. Vous devez le savoir, Paul Smith. Et puis les Français sont très cérébraux, y compris lorsqu'ils font du cinéma. Qu'est-ce que ça vous inspire également? Parce que votre mode est à la fois une mode intellectuelle, mais c'est quand même là aussi une mode qui se soucie beaucoup des formes, qui n'est pas l'une des modes les plus cérébrales qui soit. Vous ne faites pas de la mode conceptuel, et pourtant vous appréciez beaucoup les cinéastes français, vous appréciez beaucoup Godard, vous appréciez également beaucoup Truffaut.
La première fois que je me suis rendu en France avec ma toute première collection, il y avait un certain Jean-Luc Godard qui était là. Et il avait dans mon esprit un statut d'icône. Je ne savais pas grand-chose sur lui, mais je crois qu'il portait des vestes en cuir et des jeans à l'époque. Et petit à petit, j'ai eu le privilège de le côtoyer. Je l'ai rencontré une fois et je me suis rendu compte que c'était un homme qui avait une approche très cérébrale des choses, mais c'était un homme qui savait aborder les problèmes du monde de façon très différente des autres. Pour ce qui est des vêtements que je crée, je dois dire que ce n'est pas particulièrement cérébral, j'essaye de plaire au plus grand nombre. Mais le cinéma français est évidemment tout à fait cher à moi.
Qui sont les créateurs contemporains qui vous inspirent aujourd'hui? Non, des créateurs. Des artistes, on vient de parler de Jean-Luc Godard, de Truffaut, on a parlé de David Bowie, qui sont aujourd'hui les artistes.
C'est une question plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, parce que malheureusement, il y a pas mal de gens qui sont plus sans saveur, si vous voulez. Pas très honnêtes envers eux-mêmes. Il y a pas mal de gens qui sont le résultat du marketing, en fait le fruit de notre société moderne. Donc, moi, je suis influencé plus par les gens du passé que par les créateurs artistiques contemporains.
Vous êtes actuellement à Paris pour présenter votre collection Prêt-à-porter Femmes automne-hiver 2016-2017, puisque la mode est toujours en avance, ce qui signifie que vous allez travailler, vous êtes probablement en train de travailler sur la collection 2017-2018. Qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients et à vos clientes, Paul Smith ?
Oui, c'est vrai que je travaille à la prochaine collection 2017-2018 et la collection que je viens de montrer, qui est la collection d'hiver, c'est autre chose. C'est vrai que les gens aujourd'hui n'ont pas nécessairement autant de pouvoir d'achat. Par conséquent,
J'essaye de créer des vêtements où chaque pièce peut être ajoutée à la garde-robe. C'est une façon, à mon sens, plus moderne d'aborder la mode. Et de toute façon, nous, on ne fait pas de vêtements pour le tapis rouge, en quelque sorte.
So far, so good.
Donc, so far, so good. Tout va bien jusqu'ici.
Comme le fait, par exemple, de porter, comme vous, une chemise en jean très informelle avec un costume très habillé en tweed.